Numéro 2. La deuxième page du texte en araméen. Donc il semble que la deuxième page, le numéro 2, il parle. Il va sur la deuxième partie de la phrase. On a vu que Yaakov resta seul, ça. Et maintenant, un homme lutta avec lui. Ish, c'est un homme en l'occurrence, c'est Ish. Ish imo. Rav Chouni amar, nidmelo bidmus roe. Cet homme, il est apparu à Yaakov Avinu comme un berger. Lazé tson, mais lazé tson, c'est un berger avec du petit bétail, comme Yaakov. Lazé gmalim, ou lazé gmalim, il y avait des chameaux, comme Yaakov. Amarlo, il lui a dit, Haver et Shelcha, et après ça, ani ma'avir et sheli. Fais passer ce qui est à toi, et ensuite je ferai passer ce qui est à moi. Donc il lui a laissé la priorité. Et vir Yaakov avinu shelo. Yaakov avinu, il a utilisé cette priorité qu'il lui a donnée. Amar, narzo, venecheme. Dilma anshinan klum. Yaakov a dit, on va retourner et on va voir, peut-être que, on va voir si nous n'avons pas oublié quelque chose, si vous voulez. Min dachazar viyavek ishimo. Min dachazar, c'est quand il est revenu ou au moment où il voulait revenir. L'homme a lutté avec lui. A pria Rabba, le Rabbi Shimon Bar Rebi, a pria le grand, et Rabbi Shimon, fils de Rebi, chez nous, c'est dans le texte en araméen, c'est tout ce qu'on a, dans le français, il y avait, semble-t-il, aussi. Ils avaient un Rabban Shimon Gamliel aussi. Nasvin v'yavun bepragmatia baden metaksa. Ils étaient occupés au commerce, à la pragmatia, de la soie. Soie brute. Metaksa, c'est semble-t-il la soie. Non, c'est pas vrai. C'est, oui. Alul lehada tzor va'avadun avid teon. Ils ont eux aussi Alors, ils sont. En fait, ils allaient à Tsour. Tsour, c'est donc cette ville de la ville de Tyr. Et ils ont fait leur travail. Min de nafke min pile amre nelech venitpos umanut avotenu. Ils ont dit retournons et faisons ce que nos ancêtres avaient l'habitude de faire. Umanut avotenu, c'est-à-dire littéralement, la umanut, c'est l'artisanat. C'est-à-dire, c'est une façon de faire qui était spécifique, que savait, c'est vu comme quelque chose de très bien que nos ancêtres faisaient. Narzor venechemé mi anchinan klum. Retournons pour voir si nous n'avons rien oublié. Hazaroun, ils sont retournés. Vashkhan, Mechayala, Dimitaksi, ils sont retournés et ils ont trouvé qu'ils avaient oublié un paquet ou un ballot de soie. Amrin Loun, Min Hen Itlechon, les gens ont dit, mais Min Hen, de qui avez-vous ça? De qui avez-vous cette pratique de revenir pour vérifier que vous n'avez rien oublié? Amrin, Min de Yaakov, ça va. Nous avons cette habitude de Yaakov, notre ancêtre, donc ce terme qu'on avait utilisé, Yaakov, ça va. Yaakov l'ancêtre, ici Yaakov c'est son nom, c'est le personnage, c'est pas Yaakov au sens d'un autre nom du clan Israël. D'où est-ce qu'on le sait? C'est marqué Vaivater Yaakov Levado. Yaakov est resté seul. Alors évidemment, dans ce verset, si on n'avait que ce verset, si on ne connaît pas l'histoire, on ne voit pas en quoi ça veut dire qu'il faut revenir en arrière. Il aurait pu. Il est resté seul. Il faut mettre en scène toute cette histoire pour expliquer qu'il est revenu en arrière et que c'est ça qui fait qu'il est resté seul. Rabbanan Amré, la Chilistim Nidvalo. Alors, on va d'abord s'arrêter ici, enfin, voir bien, que, bien comprendre que on copie ici avec. On copie ce qui est arrivé à Yaakov. D'accord. Nous copions ce qui est arrivé, nous faisons ce qui est arrivé à ce que Yaakov lui-même a fait. Des Rabbanan Amré, ça c'était la version qui disait que il lui est apparu à Yaakov, ce Ish est apparu à Yaakov comme un berger. Les Rabbanan, eux, disent il est apparu à Yaakov comme un achilistim, c'est un archibrigand. Il met l'eau. La Zetson, mais la Zetson. Il avait du petit bétail, l'autre, et Yaakov avait du petit bétail. La Zegmalim, mais la Zegmalim. Ils ont la même chose. Amarlo, Aver et Cheli, Vani Avir et Chelcha. Il a proposé à Yaakov, il a dit, écoute, traverse avec mon troupeau, et moi je traverserai avec le tien. Et Evir, tout à coup maintenant, ce Ish, le Midrash l'appelle Malach. Et Evir à Malach et Chel Avinu Yaakov, Kerefaim. Il a passé le troupeau de Yaakov, mais comme c'était un malach, il a passé ça en un instant, en un clin d'œil. Vaya, vinu Yaakov, ma'avir bechozer, umshakeach, ma'avir bechozer, umshakeach, kol alayla. Umashkach, kol alayla, pardon. Pas umshakeach, mashkach. Et Yaakov, il a fait passer le troupeau qu'il devait faire passer, c'est-à-dire le troupeau du malach. Il l'a fait passer une partie du troupeau, il revient en arrière, il y en avait encore tout, ça n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de trouver du bétail qu'il fallait encore, du petit bétail qu'il fallait encore faire passer. Amarlo, Prakmos, alors il lui a dit, Prakmos, il a dit, Yaakov a dit au malach, il dit, mais t'es un sorcier, ton troupeau il finit pas. Dama, Pinchas, Beoto Sha'a, Natal Yaakov Avinu Pukarin, Benatal lo Betor Tsavaro. À ce moment-là, Yaakov a pris, alors ils disent que c'est de la laine. Oui. Et il la lui a mise dans le cou, ou autour du cou. Et il lui a dit, Pratmos, Pratmos, sorcier, sorcier. Ou, certains disent que Pratmos, c'est peut-être pharmacien, pharmacien. Il n'y a pas de pharmacien ici, hein? Non, ça va. C'est donc un pharmacien. Non, ils disent que c'est... Ça veut dire magicien, mais bon. Qu'est-ce qu'il a dit, Khan? Il a dit que ça voulait dire magicien. Sorcier, magicien, c'est la même chose. Ça ressemble beaucoup à un pharmacien, quoi. C'est sûrement que l'ancêtre des pharmaciens, c'était un sorcier. Amaravuna, Bassof. Finalement, Amalach a dit, Ani modio immi wosek. Je vais lui dire avec qui il a affaire, à qui il a affaire. Mais à ça, Matanetz Bao Baaretz, il a mis son doigt dans la terre. Et Itrila Aaretz Toseset Esh. La terre s'est mise à cracher du feu. Amarlo Yaakov. Yaakov lui a dit, Minda ad matrilli ana kule minna. Adaou dirti veaya bet Yaakov esh vegomer. Yaakov lui a dit, tu crois que tu vas m'effrayer avec ça? Minda, avec ça, at madrilli? Pas du tout. Il lui a dit, Anna, kule mine. Moi, je suis entièrement de feu. Le feu n'a pas de prise sur moi, je suis du feu. Comme c'est marqué dans le pasouk du Navi, Vehaya bet Yaakov esh. À ce moment-là, la maison de Yaakov sera du feu. Et la suite du verset, c'est et les ennemis, donc, de Esav, Edom, quoi, sera de l'étoupe. Donc, ils vont complètement brûler. Voilà. Voilà ce texte ici, un peu étonnant. Bien sûr, ça ne vous étonne pas, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est présenté comme. Ça vient comme commentaire d'un homme qui a lutté avec lui. Pour l'instant, on ne voit pas du tout qu'ils aient lutté. Semble-t-il, on ne voit pas ici. Ce texte-là ne présente pas du tout la lutte comme une lutte, comme un corps à corps. La lutte, elle est résumée à la fin du texte, en soi. C'est une lutte en parole. Enfin, c'est-à-dire, l'autre, lui, c'est pas tout à fait en parole, c'est-à-dire que lui, il lui montre qu'il est capable de fabriquer du feu, faire du feu. Et Jacob lui dit, moi, ça ne me touche pas, je suis entièrement de feu. C'est-à-dire, tu ne peux pas m'attaquer comme ça. Semble-t-il, le Malach en question, sa force, c'était sa capacité de produire du feu. Et la réponse de Jacob, c'est, en fait, tu ne peux pas m'atteindre par le feu parce que je suis du feu. Je suis tout entier de feu. Donc
Ravuna, il évoque le combat à la fin.
Si, Ravuna, il dit, je vous dis, c'est simplement, c'est un combat en parole. Enfin, c'est le geste de celui qui montre que je suis capable de produire. C'est dans l'autre sens. Pardon?
Le premier Ravuna. au début de...
Oui, justement, ici, lui, il dit la lutte, mais de tout le reste, ici, ne parle pas de... ne parle plus de d'une lutte quelconque. C'est-à-dire, s'il est vu comme un... S'il est vu comme un brigand, il n'y a pas de lutte. La lutte contre le brigand, l'archi-brigand, elle consiste à... C'est une espèce... Il s'évalue, quoi. Il regarde ce qui je suis. Et... Il dit, mais j'ai pas peur.
Mais ils sont où, là? J'ai pas compris. Ils sont... Il y a un pont suspendu. Ils sont chacun les deux de chaque côté ou sont du même côté?
Non, ils sont... initialement, ils sont du même côté.
Ils sont du même côté. Ils doivent traverser quelque chose, quoi.
Ils ont chacun leur troupeau?
Un chemin, un passage, quoi.
Il faut passer, alors il y a un passage. Ils ne peuvent pas passer tous les deux de front. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un cas, le malach en question, l'ange, l'homme en question, il se présente comme quelqu'un qui dit « je te laisse la priorité ». Simplement, voilà, tu passes. Et il l'attaque quand il revient voir s'il n'a rien oublié. Et le deuxième ne l'attaque pas vraiment, mais il lui montre sa puissance, quoi. Il lui montre que je regarde la puissance que j'ai. Et finalement, Yaakov lui dit, bon, ça ne m'impressionne pas du tout. Je ne suis pas impressionné par cette puissance-là. Alors regardons d'abord la Ravuna, Rav Hunia, pardon, il s'appelle. Chez nous, il s'appelle Rav Hunia. Qui se présente à lui comme un berger, c'est-à-dire en fait, Yaakov c'est un berger, le Ish se présente à lui comme un autre berger. Il rencontre quelqu'un qui est homogène à lui, quoi. Il se présente comme, on pourrait presque dire, un autre lui-même. Et s'il est le représentant de son jumeau, c'est normal qu'il se présente comme lui. Si le malach qui représente Esav, qui est le jumeau de Yaakov, eh bien, dans la confrontation, c'est justement parce que c'est parce qu'il est son jumeau qu'il l'attaque. Il attaque, j'ai autant de droits que toi à l'héritage, etc., ou quoi qu'il en soit. Donc il l'attaque parce qu'il est comme lui. Initialement, comme il est au départ. Alors, il y a deux parties dans cette première partie, en fait. Il y a ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu, et puis ensuite, il y a la leçon qu'on en a tiré, que les Chachamim en ont tiré. Et la leçon qu'ils ont tirée, c'est justement, c'est qu'il est resté seul. Alors, c'est un peu compliqué parce que la leçon qu'ils en ont tirée n'a rien à voir avec la lutte. Il y a un homme qui a lutté avec lui. La leçon qu'ils ont tirée, c'est qu'il faut revenir en arrière.
Il revient en arrière pour chercher ses fioles.
Il a oublié, oui, il a oublié des choses, c'est des parkings, peu importe.
Donc, il revient en arrière avec des bêtes. Déjà, je comprends
pas. Non, les bêtes, il les a passées.
Il a
passé, les bêtes sont de l'autre côté. Maintenant, il dit, peut-être que j'ai encore oublié des choses. Il repasse tout seul cette fois-ci, pour aller chercher des parkings.
Il n'est pas seul puisqu'il trouve un berger avec des...
Non.
Non.
L'homme était apparu sous forme d'un berger. Il a des brebis et des chameaux comme lui. Il lui dit, fais passer les tiens, moi je fais passer les miens. Et à quoi fait ça? Jusque-là, il ne s'est rien passé. Il a rencontré un berger qui lui a dit, passe avant moi. Sympa.
Donc là, il est toujours en train de partir d'un mal, quoi.
Alors, oui, il est en chemin pour. Et donc, il passe son troupeau et il revient en arrière pour voir s'il avait rien oublié. Quand il revient en arrière, lui, il est tout seul, mais le berger, il est encore là avec ses troupeaux. Parce que le berger, il n'a pas encore passé. L'autre, le Ish. À ce moment-là, il lui tombe dessus. Il l'attaque. Et il lutte avec lui. C'est-à-dire, il a pu l'attaquer, parce que quand on dit qu'il est seul, vraisemblablement, il est seul, il n'a pas les gens, ni les chiens qui accompagnaient les troupeaux, ni les autres bergers. Il n'était pas tout seul, Jacob, s'il avait été tellement riche, il avait sûrement des gens avec lui. Mais les gens, ils ont passé, ils étaient là pour garder les troupeaux. Lui, il retourne seul pour chercher les parkings ktanim, peut-être des petits trucs que j'ai oubliés. J'ai pas besoin de faire retourner. Les autres, ils sont là pour garder les troupeaux de l'autre côté. Mais du coup, lui, il est tout seul, et le berger est là, l'autre. Le Ish qui s'est donné comme un berger, il est là, il lui tombe dessus, il l'attaque. Et il lutte avec lui. Ce Rav Kounia, il ne nous dit rien de cette lutte. Ils ont lutté, on verra la suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en tire? Une leçon un comportement. Mais on pourrait presque dire, il ne faut pas revenir en arrière, regarde ce que ça... Tu reviens tout seul en arrière, tu t'es fait attaquer. Jacob, quand il est revenu en arrière, il s'est fait attaquer. Bon, il s'en est sorti, mais il s'est fait attaquer.
Il s'en est sorti avec une bracha.
Il est sorti avec une bracha, mais en attendant, ça aurait pu très mal tourner. Est-ce que c'est... Parce que lui, il s'en est sorti, est-ce que c'est devenu un modèle? Alors eux, ils le font et ils disent, c'est umnout avotenu. C'est devenu la umanout de nos ancêtres. Cette expression, par exemple, umnout avotenu, la umanout, l'artisanat, la spécificité de nos ancêtres, c'est marqué, cette expression-là, elle est utilisée quand les Bnei Israël se sont trouvés au bord de la mer, poursuivis par les Égyptiens, ils ont prié. Et là-dessus, Rashi rapporte, Tafsou umnout avotenu. Ils se sont saisis de la caractéristique de leurs ancêtres. Ils savent que dans une situation comme celle-là, il faut prier. Tout à coup, eux qui étaient détachés de tout ce que les ancêtres, comme le Rambam m'avait dit, on a quasiment tout oublié en Égypte. N'est-ce pas? De ce qu'Abraham avait enseigné. Tout à coup, Tofsim umnout avotehem. Tout à coup, ils se saisissent de la façon d'agir de leurs ancêtres et ils prient. Et là, donc, que la prière soit la façon d'agir de nos ancêtres, je comprends bien. Mais est-ce que la façon d'agir de nos ancêtres, ça consiste à aller regarder si on n'a rien oublié? C'est présenté ici comme quelque chose, façon de faire de nos ancêtres. En tout et pour tout, tout ce qu'on en sait, c'est qu'Yaakov il avait oublié, il pensait avoir oublié des choses. On a même l'impression, de quand on dit qu'il est retourné chercher des parim ktanim, c'est qu'il savait qu'il les avait oubliés, semble-t-il. On a l'impression qu'il n'est pas retourné pour voir, peut-être. Ici, c'est présenté, peut-être que pour voir s'il n'avait rien oublié. Est-ce que Dilma Anshinan Klum, peut-être qu'on a oublié quelque chose. Le Midrash, il fait que peut-être on a oublié. Nous, quand on raconte l'histoire, je ne sais pas comment vous la racontez, moi j'ai l'impression que je la racontais toujours comme si Jacob savait très bien qu'il y avait sûrement encore des petites choses qu'il n'a pas prises. Et que, bon, il fallait faire passer les troupeaux, c'était ça le gros souci. Et après, il y a une voiture balai qui passe et qui ramasse. Donc il est revenu chercher les petits trucs qu'on n'a pas pu prendre. On a défait le camping, ils ont oublié les trucs. Et. Bon. Et Jacob, il est revenu en arrière, il y a ce Ish qui a lutté avec lui. Et eux. Ils sont revenus en arrière, ils ont trouvé quelque chose qu'ils avaient oublié, effectivement. Et ça avait récemment de la valeur, ils ont retrouvé tout un ballot de soie, ça valait la peine. C'est pas une petite chose qu'ils ont oublié. À moins que c'était des gens très très riches, et qui les ballots, ils en avaient des milliers, je sais pas, donc ou des centaines, et qu'ils ont Ils ont retrouvé un ballot de soie qui était une petite chose par rapport à tout ce qu'ils avaient transporté. Ah, mais justement, maintenant vous donnez une autre interprétation qui est pas. Le Midrash, il n'en parle pas du tout.
Si j'ai entendu ça.
C'est Rashi qui dit. Vous avez des bonnes lectures.
Non, c'est ici.
Oui. Ah, vous savez. Rien dit. Alors. Effectivement, on aurait pu expliquer, mais curieusement, le Midrash ne dit rien de tel, que pourquoi est-ce qu'ils se retournent en arrière, parce que peut-être qu'ils ont oublié quelque chose, et surtout si on le présente comme peut-être on a oublié quelque chose, bon, peut-être ça peut s'interpréter par, visiblement ils sont macpides même sur des petites choses. Et retourner en arrière, on a l'impression que ça, comme si Yaakov savait qu'en retournant en arrière, il se retrouvait tout seul et l'autre, il est là avec ses chiens, avec les bergers, etc. Bon, il sait pas qui il est, il sait qu'il est là et que bon, il va se retrouver tout seul. Donc, il sait très bien qu'il prend un certain risque. Il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, ce berger. Il ne connaît pas. Donc il n'a pas tellement de raison de lui faire confiance. Et néanmoins, il retourne. Ça veut dire qu'il prend le risque. Donc ici, il montre effectivement combien il est attaché à ses biens. Donc là, on retrouve quelque chose comme Rashi, mais c'est curieux que ce Midrash-là n'en dise rien ici. Il manque l'essentiel. Quoi. Quelque part, c'est une très grande leçon de savoir que nos avot sont attachés à leurs biens parce que attaché à leur bien, ici, ça veut dire, comme on dit dans le premier paragraphe du Shema, le chol levavcha, chol nafshecha, chol meodecha. Meodecha, c'était bien, c'est toute ta richesse. Là, on considère que la richesse, c'est une partie de nous-mêmes. Alors, pourquoi est-ce que je dois retourner, pourquoi il faut prendre tellement soin de ces biens? Parce que si Hachem te les a donnés, c'est comme des qualités qu'il t'a données, etc., c'est pour que tu en fasses quelque chose, donc tu ne peux pas les négliger. Tu n'as pas le droit de les négliger. Si ça avait, les biens sont faits pour faire une certaine avoda avec ces biens, donc tu ne peux pas te conduire comme bon, ça n'a pas d'importance, parce que les biens, c'est pas du matériel. C'est pas matériel, c'est aussi spirituel, les biens. Si tu dis, c'est aussi spirituel. Ça sert à servir Hachem, c'est marqué, tu aimeras Hachem de tous tes biens. Donc ça veut dire, ça sert à l'amour d'Hachem, ça sert à la ma'avoda. Donc, il est obligé de revenir, et c'est ça qu'ils disent, « Umnut avotenu », en quoi c'est « Umnut avotenu » ? Nos ancêtres, ils ont compris, et ils nous ont enseigné, que les biens étaient une partie de nous-mêmes, en fait. Que nos biens, c'est une partie de nous-mêmes, dans la mesure où ce qui me constitue, c'est tout ce qui va me servir à jouer mon rôle dans le monde, c'est, mon rôle étant de servir Hachem, donc tout ce que j'ai, est au service d'Hachem, et je ne peux donc pas le négliger, pas plus ceci que cela. Si tu l'as, c'est que ça a une fonction.
À un certain niveau, est-ce qu'il n'y a pas une idée de retour vers...
Bon, vous pouvez dire c'est un retour dans la mesure... oui, c'est une forme directe de retour, je reviens, parce que j'ai été négligent quelque part. Peut-être on a été un peu négligent, ou... Peut-être ça fait partie, on a un peu l'impression que ça fait presque partie du fonctionnement des choses. Quand on part, on oublie des trucs.
Parim
Ktanim, c'est ces petits raviers.
C'est celle-là qu'on a retrouvée
au Hanouka. Oui, c'est le même mot. Parim Ktanim, c'est des petits raviers, des petites coupelles, si vous voulez, dans lesquelles on allume, en fait, c'est des lampes de Hanouka, quoi. C'est, Ils avaient resté, ça ils l'avaient laissé. Donc il revient, hein, et il le prend. Et eux, quand ils reviennent, les marchands là, eux ils trouvent autre chose. Ils trouvent de la marchandise avec laquelle c'est leur marchandise, n'est-ce pas? C'est, pour eux, un ballot de soie, c'est pas n'importe quoi. C'est la marchandise avec laquelle ils font leur business. C'est-à-dire, ils sont au skin baiser. C'est-à-dire, ils ont oublié un tracteur, quoi. C'est une chose. C'est rien, c'est Caterpillar, ils ont oublié un tracteur. On va chercher un tracteur. Donc, c'est un ballot de soie, quand on est au sec baiser, ben, c'est important. Pourquoi pour lui les parkim ktanim c'était aussi important? Pour montrer, enfin, quand on dit parkim ktanim ici, on ne dit pas que c'était parkim ktanim, on ne dit rien. Petite chose. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Et ce midrash là, il n'en parle, il dit pas ce qu'il y a. Il ne dit pas du tout que Yaakov d'ailleurs ait trouvé quoi que ce soit. L'important c'est qu'il est revenu pour voir s'il n'avait pas oublié quelque chose. Donc c'est la démarche elle-même qui est la fondamentale, et c'est ça qui sert de modèle. Et là, il va risquer sa vie pour quelque chose. Il ne sait pas, disons. Ce Midrash, il n'a pas l'air de présenter les choses comme s'il savait. Il dit, peut-être on a oublié. C'est encore pire. On ne sait pas. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Vraisemblant, ce n'est pas des choses... c'est pas des grandes choses. Alors, lui, ce qu'on peut dire, c'est que lui, ouais, il s'est trouvé dans une situation dangereuse, puisque l'autre a lutté avec lui. C'était pas certain, je veux dire. Il y avait un certain risque. Mais peut-être que ce qu'on veut dire, c'est que le modèle, il doit toujours, pour être un modèle, il est toujours un peu plus extrême. Je vois que même ici, où il y avait un certain risque, il l'a fait, donc, pour te montrer que c'est très important. Après, maintenant, tu peux imaginer que c'est sûr que quand les gens sont partis en 33 et ils ont laissé des trucs, ils ne sont pas revenus en arrière, je veux dire. Parce que ça, c'était vraiment une sacanade de fachotte. La chose est, on ne peut pas... C'est un peu péjoratif quand on dit attaché au bien, mais c'est pas seulement vous qui dites. Les Chazal disent que leur mammon est chaviv alehem, yoter migoufam, que leur argent, leur bien matériel, leur sont plus chers que leur corps, puisqu'il prend des risques. Donc Chazal vont plus loin même que ce que vous dites, mais en soi, ça nous, quand on le dit de cette manière-là, c'est un peu, presque un peu gênant, mais peut-être qu'il faut simplement prendre cette gêne en compte, c'est-à-dire, c'est comme ça. Et
si on reprend l'idée de Tshuva, chacun est propriétaire de ce qu'il possède.
Oui.
Ce qu'il possède, c'est ce qu'il est.
Oui, tout à fait, c'est une partie de lui-même.
Chez Yaakov Avinu, ce qu'il est, c'est ce qu'il transmet. L'idée de dire qu'il revient, c'est-à-dire qu'il s'inquiète de savoir si justement toute la transmission qu'il possède, il n'a rien oublié. Même quitte à prendre des risques.
Quand vous dites transmission qu'il possède, vous voulez dire.
La transmission, c'est-à-dire ce qu'il est.
Ce qu'il va transmettre. Oui, non, c'est une partie de lui-même. Et il se doit, effectivement. Ça sert à la avoda, que ce soit à transmettre, que ce soit à donner à Hachem, peu importe, à ce moment-là. Tout ça, ça fait partie de son être. Et du coup, ça, c'est devenu un modèle. Et eux, ils se disent, faisons. Ils pensent pas, on a oublié quelque chose. Ils pourraient dire, peut-être qu'on a oublié quelque chose, revenons en arrière. Non, ils disent, puisque nos ancêtres faisaient comme ça, on va aussi faire comme eux. C'est une espèce de comportement, un mimétisme sur les ancêtres. Donc c'est ça, il l'a transmis. Se revenir en arrière pour voir si on n'avait rien oublié. Alors maintenant, vous avez des pathologies, n'est-ce pas? Les gens qui s'en vont, chaque fois qu'ils s'en vont, ils reviennent. Bon. Est-ce que j'ai vraiment fermé la clé? Est-ce que j'ai fermé la fenêtre, fermé le gaz, etc. J'ai rien oublié. Ça existe, même sous forme pathologique aussi.
Mais quand on fait une mitzvah, c'est un peu compliqué. Donc, bien tout fait? Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce qu'il ne faut pas que...
Mais là, il est en train de rentrer chez lui. C'est...
D'accord, mais c'est l'idée.
Et eux, c'est des marchands. Ils, on ne dit pas qu'ils font une... C'est leur boulot, c'est leur job, il faut le faire comme il faut. Et donc, on ne peut pas gaspiller la soie qui est le matériau avec, avec lequel ils travaillent.
Si on va dans ce sens-là, par exemple, en prenant le Job, qui lui a été rendu à enlever toute sa richesse, ça a été même plus loin, puisque sa famille, etc. Si on va dans cette direction-là, ça veut dire que c'est une plan pour la personne de perdre comme ça ses biens.
Bien sûr.
Parce qu'il a mis la faute.
Bon, chez Iov, c'est une question de savoir est-ce qu'il a fauté ou est-ce que c'était au contraire pour montrer sa grandeur, c'est une leçon, etc. Il y a toutes sortes d'interprétations possibles sur ce qu'a fait Iov. Et peut-être qu'il a fauté, parce que, en fait, on peut aussi dire que son système à lui de les enfants font n'importe quoi, moi je passe derrière et je répare tout derrière eux, quelque part ça les rend. Irresponsable. Oui, mais irresponsable. On n'a pas besoin de prendre. On s'occupe de rien. Tout de même, papa passe derrière et il paye toutes les ardoises qu'on a laissées, il répare tout ce qu'on a cassé. Donc, effectivement, peut-être que c'est pas du tout un. Enfin, très certainement, c'est pas un bon système d'éducation. On fabrique pas des gens responsables si on fait ça.
Ça évite de faire des
reproches. Oui, mais ça c'est une faiblesse, parce que les reproches, ils doivent être faits, le cas échéant, parce que ça fait partie de l'enseignement, de la transmission. C'est une fuite devant les reproches, quoi, ce que tu veux dire. Et on n'ose pas faire des reproches à ses enfants, ben, de crainte qu'ils s'en aillent, mais c'est justifié de ne pas vouloir faire des reproches. Ni Yaakov, ni Avinu, ni Moshe Rabbeinu n'ont fait des reproches à leurs enfants ou au clan d'Israël de leur vivant. Ils ont attendu d'être à l'article de la mort pour faire leurs reproches. Pardon ?
Vous avez dit aussi que pour Yaakov, il n'a jamais fait de reproches à son vivant, alors que
les gens ne m'auraient. Ça, je ne sais pas. Sur Yaakov, j'ai toujours dit que je ne sais pas pourquoi il ne le faisait pas. Mon idée, c'est que s'ils n'ont pas compris ça tout seul, peut-être ça ne sert à rien de faire des reproches à ce niveau-là. Au niveau où ils étaient, peut-être que s'ils n'ont pas compris. Mais ça, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment la solution. En tout cas, eux, ils ont tiré une leçon. Et la première leçon, c'est ce problème du retour. Vérifier qu'on n'a rien oublié, en fait.
Le Midrash présente ça comme étant lié au fait qu'il a rencontré cet homme, ce double.
Mais justement, on ne voit pas. Ça n'a rien à voir.
C'est comme ça que c'est présenté dans le Midrash.
Oui, le Midrash, il ne le dit pas directement. Le Midrash, justement, ce Midrash, il est sur le fait qu'un homme a lutté avec lui. Et le passouk qui est cité à la fin comme modèle, c'est effectivement Yaakov s'en est retourné. Il est retourné et il est resté seul. Non, je dis pas tout, quoi. Et un homme a lutté avec lui. Est-ce que le fait que l'homme ait lutté avec lui, pour les gens avec leur ballot de soie, ça n'a rien à voir. Donc on voit qu'il y a une première lecture de cette histoire, c'est non pas sur la lutte elle-même, mais sur la démarche qui a amené Yaakov en position d'être attaqué. C'est vrai qu'il s'en est sorti avec une bracha, comme vous avez fait remarquer et tout, mais il a d'abord fait quelque chose qui lui a valu d'être attaquable. Et ça, il considère que c'est une leçon. S'il l'a fait, Yaakov, s'il est revenu en arrière, c'est non seulement une bonne chose, mais c'est présenté comme étant « umnut avotenu ». C'est très fort, umnut avotenu. Je vous dis, c'est comme la prière des Bnei Israël devant la mer, qui est leur umnut de. Ils ont appris les avotes qu'il fallait prier. Ça, on comprend. C'est la umanut des avotes, de prier, ça, je comprends. mais que la humanout des avots, ce soit de retourner quand peut-être on a oublié quelque chose. D'abord, encore une fois, on ne le voit que chez Yaakov, à ma connaissance, et ça s'appelle humanout, c'est très fort. Je n'ai pas encore bien compris en quoi c'est une humanout.
Dans le schéma, avec les trois notions, là, du corps et le matériel, ça, c'est privilégié par rapport à tout le reste.
Oui, mais qui dit que pour ça il faut retourner? Peut-être que la leçon qu'il faut tirer, c'est simplement faire attention. Faites attention avant de partir. Est-ce qu'on a vraiment tout pris? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais quand toi tu pars de chez toi? Tu vérifies que t'as pris tout ce que tu voulais prendre. Tu ne descends pas dans la rue, puis après tu remontes, et puis je vais regarder si jamais j'ai oublié quelque chose.
Ça ne paraît pas essentiel, vraiment, ça ne paraît pas vital. Si on ne sait pas ce que ça recouvre, ce que vous allez ramener un jour, une parole de race à l'antenne, je crois que les biens matériels sont
les biens. Oui, les besoins matériels des autres sont mes besoins spirituels. Ça, c'est, ici, ce n'est pas les besoins matériels, on n'est pas directement là-dedans.
Le malheur comme un berger, c'est un peu curieux, qu'au début il a l'air gentil, puis après finalement puisqu'il le laisse passer en fait, il le laisse passer, et ensuite quand il revient, et bien au contraire, là il l'attaque. Quel est le sens de ce retournement de...
Ben, si on considère que c'est Esav, quelque part, et que c'est vraiment Umnut Avotenu, c'est-à-dire que peut-être Esav l'attaque parce qu'il ne veut pas que, si ça il me manque le modèle de Abraham et Yitzhak ici. Donc pourquoi lui il est revenu Yaakov? Alors disons qu'il a compris que c'était ça la démarche correcte et que peut-être Esav ne veut pas. Il dit, ah là tu te... Peut-être, en disant, quand eux nous disent après que c'est Umnut Avotenu, peut-être que ça vient révéler en quelque sorte que c'est comme ça que Yaakov manifeste que c'est lui l'héritier des Avot. Si c'est Umnut Avotenu, c'est lui qui, dans sa conduite, il manifeste, voilà, je suis vraiment l'héritier des Avot parce que je fais ce que les Avot ont fait. Et ça, si ça se trouve, lui, ça lui était égal d'avoir oublié quelque chose, de toute manière, il le piquera au prochain, quoi. Ce qui dérange, il le prendra là où il faudra le prendre. Donc, il n'a peut-être pas besoin de faire... Il n'y fait pas attention, mais il comprend que tiens, cette démarche-là, tout à coup, elle montre quelque chose qui lui est insupportable. Alors, d'habitude, j'explique ces choses-là en utilisant ce que Ilan disait, c'est-à-dire que si on dit que c'est révélateur, ici, ce qui n'est pas marqué dans ce midrash-là, que ça a à voir avec le fait que ce que Rashi explique, que pourquoi est-ce qu'ils font particulièrement attention à leur bien, c'est marqué parce que chez Enan Pochtim Yedem Begezel, parce qu'ils ne volent pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, ils ne volent pas? Ça veut dire que on voit que si on ne vole pas, alors même les parim ktanim ont de la valeur, ou du coup, si tu reviens pour des petites choses, c'est la preuve que, et tu dis c'est parce que je ne vole pas, ça veut dire que tu es extrêmement médakdek dans la notion de vol. Donc quand tu dis nous on ne vole pas, l'autre il entend et vous volez. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs, puisque vous ne faites pas ce que nous faisons, alors vous êtes des voleurs. Alors, on pourrait comprendre ici que quand il revient et qu'il montre qu'il se conduit de cette manière-là, c'est comme s'il disait au berger, tu vois, moi je reviens, et pourquoi je reviens? Je ne suis pas cinglé. Je reviens parce que nous, on n'est pas des voleurs. Sous-entendu, toi tu ne serais pas revenu, ça veut dire toi tu es un voleur. Or, ça veut dire, c'est comme si le cas d'Israël disait, ben, nous on n'est pas des voleurs, et les autres sont des voleurs, puisque là c'est le Malach d'Esav, c'est celui qui représente tous les peuples, puisque Esav ça représente l'ensemble des peuples. Le Malach d'Esav c'est le Malach de... Ça veut dire, c'est dire que le reste de l'humanité sont des voleurs. Or le vol, tout le monde est d'accord, je veux dire, en tant que valeur, bon, on dirait on n'a pas la même mouna que vous, etc., ça ne dérange pas. Mais le vol, tu nous accuses d'être nous des voleurs. Alors on va voir, alors je vais t'attaquer. Là il l'attaque, parce que sa démarche est une façon de dire vous êtes des voleurs.
Mais juste avant, on parle des chaussures de la vanne qui ont été dérobées par...
D'abord ça, Yaakov ne le savait pas, et on n'était pas d'accord qu'il fallait le faire, et elle l'a fait parce qu'elle pensait que c'est Avodah Zara qu'il fallait préserver, que son père il est metsouvé sur Avodah Zara, donc ce qu'elle a fait c'est l'empêcher de faire Avodah Zara, donc elle, tout ça c'est, ça se défend complètement, c'est pas du vol. Mais de toute façon, Yaakov, lui, il n'était pas d'accord. Et ce n'est pas du vol, probablement. C'est empêcher quelqu'un de faire une avéra. Si tu enlèves à quelqu'un qui va faire une avéra, tu l'en empêches. Ce n'est vraiment pas du vol. Elle n'allait pas les garder pour elle-même, et c'est pénate. Elle voulait l'empêcher de faire. Après, qu'est-ce que. C'est pénate de la vanne, elle ne pouvait pas les garder.
Elle les jeter.
Oui, mais parce que c'est Avodah Zara. Peut-être c'est des Ravetsim d'Avodah Zara, on a le droit de les jeter. Il faut les jeter.
Non, mais elle les a gardés.
Mais non, elle les a cachés en attendant. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de les détruire, probablement. Elle voulait l'empêcher de faire sa divination pour savoir. Elle a cru que comme ça, elle, ça n'a pas marché son truc, puisqu'elle pensait que grâce à ça, Lavan ne les retrouverait pas.
Et en plus, elle a reçu une flala directement.
Mais tout à fait, elle a reçu une flala. Mais elle est morte à cause de ça. Non, alors je pense que ça peut s'entendre comme une accusation de vol portée par les Juifs contre les autres peuples. Ça, c'est insupportable pour les autres peuples. Du coup, ils l'attaquent. Mais il ne sait pas. Lui croit que c'est un berger. C'est sûr que ça va avoir un impact sur cette rencontre. Mais lui, il ne sait pas, c'est un berger. C'est un berger ou un archi-gangster.
Mais à la fin du combat, il sent bien qu'il y a quelque chose...
Après coup, bon, ça c'est une autre affaire. Pour l'instant, ils n'ont même pas encore combattu. C'est même pas marqué ici que c'est des Pachim Ptanim. Il est revenu, parce que peut-être j'ai oublié quelque chose.
Est-ce que je vous demande pour les Pachim, il y a peut-être une cabale là-dessus, mais peut-être que les indices aussi dans le texte, comment ils savent qu'il est revenu pour ça? Le texte dit juste avec le Tariq avec le Bado. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec le fait que Yaakov, le fait qu'on voit de la tâche de Yaakov à l'argent, est-ce qu'on ne pourrait pas le voir dans l'achat de la Véphora, et ensuite, je pose la question, même si effectivement Rachid dans la Véphora, il parle, il y a aussi la Abouda des Véphorotes, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'héritage. Enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que Issa s'en fiche de l'argent, moi je pensais à ça par rapport à l'héritage aussi, ça veut dire qu'en fait, Yaakov, l'héritage de son père, peut-être que, d'ailleurs Issa se disait, moi je viens de mourir, moi, et comme vous disiez, de toute façon, Issa, c'était un voleur, donc vous disiez, moi, je peux toujours voler par-ci, par-là. Mais Yaakov, lui, qui aime gagner son argent honnêtement, le fait d'avoir un héritage qui vient de son père, peut-être pour Yaakov, c'était un argent qui avait une explication.
me posais cette question.
Mais son père est encore vivant, hein?
Oui, absolument. Mais c'est dans le fait de...
De prendre la bechora, d'avoir la double part, tu veux dire.
Parce que finalement, il s'est quand même... Bon, c'est Rivka qui lui a dit de faire ça. Et tout ça, finalement, c'était quoi? C'était pour avoir... Même les brachot, c'est des brachot, finalement, matériels. Que Dieu te donne, la Mishmane, oui, Arrête, oui. Etc. Là, est-ce qu'on ne voit pas encore une fois le fait que Yaakov donnait finalement une importance au bien matériel?
Oui, mais bien sûr qu'il leur donne, il donne une importance au bien matériel parce qu'il considère que ce n'est pas que du matériel. C'est la valeur, c'est sûr. Mais ce qu'on ne voit pas dans cette affaire, c'est en quoi c'est Umnutavos. Bon, j'ai déjà dit 10 fois, mais je ne vois pas très clairement en quoi. Comment on sait que c'est Umnutavotenu? C'est, voilà, Yaakov l'a fait. Il suffit que Yaakov le fasse pour que ça s'appelle Umnutavotenu. C'est pas comme la prière où ils ont tous prié, évidemment. Mais. Bon, là.
Non, mais tout à l'heure, vous avez. Enfin, quand je vous ai proposé une réponse, vous m'avez dit, mais autant ça peut être. Le fait. La leçon, c'est de ne pas oublier quelque chose.
Oui.
Et on va pas prendre une. On va pas s'inspirer d'un patriarche sur sa bêtise. On va s'inspirer d'un patriarche sur son action.
Oui.
Sur son erreur.
Oui, oui.
Donc, à part le fait qu'il mette le matériel avant sa vie, avant son corps, c'est une leçon, quoi, chez...
Oui, sans doute. Mais ce qui est important, on voit très bien, ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont appris de lui. Ils ont appris qu'il faut retourner sur ses pas pour voir si on n'avait rien oublié. Et ça veut dire quoi? On voit très bien, les gens leur demandent, mais d'où savez-vous qu'il faut faire comme ça, il faut faire ça. Peut-être qu'il faut, une fois qu'on part, on part, c'est tout. Tu vérifies avant de partir, puis après tu pars, c'est tout. Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait eu quelqu'un qui ensuite a lutté avec lui, et que ça a eu des conséquences bénéfiques, c'est ça qui leur montre que c'était bien? Est-ce qu'on pourrait aussi dire que Yaakov c'était un maniaque? Je veux dire, toute révérence gardée, mais je regarde ce qu'il a fait. Ça paraît complètement fou. Et même si on prend que la partie qui est dite dans le Midrash ici, puisqu'on voit un bonhomme qui prend des risques pour... Peut-être j'ai oublié quelque chose. Ça n'en finit plus. Pourquoi il revient seulement une fois, peut-être deux? Il faut revenir 2 fois, 3 fois. Après, il faut aller voir un psy. Je veux dire, c'est compliqué. On a appris de Yaakov. Yaakov, il est retourné, donc nous, on retourne aussi. Ça, c'est... L'ange sous forme de berger. Les rabbanan y pensent autrement. Ils pensent qu'il est apparu comme un brigand. Un archi-brigand. Et là aussi, on dit la même chose. Donc, c'est un brigand, mais qui a des troupeaux. Troupeaux avec du petit bétail, des chameaux. Et alors c'est curieux. Qu'est-ce qu'il lui veut, Yaakov? Il dit à Yaakov lui dit, fais masser les miens d'abord. Pourquoi faire passer les siens d'abord? Le Midrash, il est médaïek, dans le Manzou, il explique, c'est écrit, Vayahaver et Asher Lo, ce qu'il y avait à lui. C'est-à-dire, si Yaakov a fait passer le sinon on aurait dû dire, on n'avait pas besoin de dire Asher Lo, évidemment, que Yaakov, il a fait passer son troupeau. On a besoin de dire le troupeau qui était à lui. Évidemment, le troupeau de qui ? C'est-à-dire, si tu dis qu'il a fait passer l'autre, le troupeau, Asher Lo, ce qui était à l'autre. Donc il y a une démarche ici tout à coup de Yaakov. Il a compris que c'était un brigand, alors pourquoi il fait passer, il dit au brigand, fais passer les miens. Parce que comme c'est un brigand, il craint que si jamais lui passe, supposons que Yaakov passe le premier, qu'est-ce qu'il risque là après ? Non, mais Yaakov passe avec son troupeau. Si Yaakov était passé avec son troupeau en premier, peut-être il a, ça il s'est dit, je ne peux pas passer le premier avec un brigand, là il faut que je le laisse passer, sinon il... Donc il faut que je lui propose de passer son troupeau en premier. Et si lui passe son troupeau en premier, ensuite il peut éventuellement passer son troupeau et si c'est un pont, il casse le pont. Et je ne pourrais pas passer. Donc il dit, tu passes, c'est toi qui vas passer le premier, mais tu ne vas pas casser le pont parce que moi j'engage tes biens. Tu as les miens, mais moi j'engage les tiens aussi. A priori, tu préfères probablement ton troupeau au mien, donc c'est un moyen d'avoir un gage et d'être sûr qu'il ne va pas détruire le pont quand lui voudra passer. Où c'est marqué ça ? Dans la première partie.
Ouais.
Mais dans le deuxième, non. Avec le brigand, non.
Amarlon,
c'est pas qui ? Qui dit à qui ? Qui dit à qui ? Amarlon, aver et cheli, vani avir et chelcha. Alors, evir amalach et chelavinu. Donc, on voit très bien que le malach a fait ce que Yaakov lui a demandé. Le malach, c'est l'ange. Il a passé le troupeau d'Yaakov, en un instant d'ailleurs. Et ensuite, c'est Yaakov qui doit faire passer le troupeau du malach. Il passe en deuxième, mais avec le troupeau du malach. Le troupeau du malach, il n'en finit pas. Du coup, il le reconnaît comme un sorcier, quoi. Il n'arrête pas de... Il a un boulot infini, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que le... Qu'est-ce qu'il voulait lui montrer avec son troupeau qui n'en finit pas ?
C'est ça la lutte,
peut-être. Ah non ?
C'est ça la lutte.
Oui, je peux te fatiguer. Hein. En vérité, c'est quoi ? S'il est le malach représentant Esav et l'humanité, bon, ça veut dire on a... Tu as vu qui tu as en face ? Tu as l'humanité tout entière. Ça n'en finira jamais. Tu n'en auras jamais fini avec nous. Il lui montre, c'est fini. Alors Yaakov lui dit, mais tu es un sorcier. Alors, Pinchas il dit, à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a voulu faire quelque chose, Nathan lo betor tzavaro. C'est le natal un peu difficile. Il a pris, hein, disons, de la laine et il l'a attaché, enfin il lui a mis ça autour du cou pour le bloquer, qu'est-ce qu'il allait le mettre en laisse, quoi, qu'est-ce qu'il fait. Et il le traite de sorcier, donc. Qu'est-ce qu'il a gagné, Yaakov ? Il est toujours aussi sorcier après. Si c'est un sorcier, c'est pas avec en lui mettant un fil de laine autour du cou qu'il va s'en sortir. Parce que c'est. C'est dans les commentateurs. Difficile de voir ce que Yaakov espérait en lui mettant ce fil là autour du cou. Qu'est-ce qu'il pensait que ça allait faire?
Ça fait un peu les vampires avec de l'ail dans les fils.
Non, mais ça, il faut déjà des lettres pour faire savoir ça. Probablement, c'est une façon de. J'ai l'impression que c'est la même chose que ce que vous dites de ce qui vient des Mfarshim qui disent il n'y a pas de pouvoir. Peut-être qu'effectivement, en mettant un fil. Yaakov savait peut-être que avec la laine, il peut le maîtriser. Puisque c'est de la sorcellerie, alors. Ouais, c'est pour ça qu'il lui dit, il n'y a pas de pouvoir la nuit. Pour l'instant, on ne sait pas très bien, on ne voit pas que c'était la nuit. Enfin, par la suite, on saura que c'était la nuit, parce que quand le soleil va se lever, il va dire, laisse-moi partir. Mais dans ce cas-là, il n'a pas besoin de lui mettre un fil. Peut-être que c'est une façon de le maîtriser, le sorcier. Et alors après le sorcier, le malach, basof amar malach ani modio imi wosek, il faut que je lui dise, je vais lui dire à qui il a affaire. Esma asa, alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de lui dire il ne dit pas qui il est, il lui dit, il met son doigt, son index dans la terre, et la terre se met à bouillonner du feu, quoi, elle crache du feu. Alors Yaakov lui dit, donc avec ça veut dire, il va comprendre à qui il a affaire. Oui. S'il voit que je suis capable de faire une chose pareille, il va voir que à qui il a affaire et quoi. Qu'est-ce qu'il voulait, finalement? Il veut dire par là, il a perdu, il n'a aucune chance de s'en sortir, c'est ça? Il lutte avec lui, c'est le malard qui lutte, et il lui dit, c'est pas la peine d'essayer de te battre. Tu vois, je vais te montrer à qui tu as affaire. C'est quoi? Je suis un fabricant de feu, quoi. Je suis capable de mettre le feu. C'est-à-dire la terre, c'est pas la terre de feu, hein, mais c'est, je peux rendre la terre totalement inhospitalière pour toi. Tu n'auras pas où aller parce que je peux transformer toute la terre en feu. Et alors du coup, Yaakov lui dit, mais tu ne peux pas m'effrayer avec ça, parce que moi je suis tout entier de feu. Et il utilise, Yaakov utilise ici, le Midrash utilise, mais dans la bouche de Yaakov, un pasouk de Ovadia. Et Ovadia, c'est un prophète, mais ce prophète-là, on dit que c'est un descendant d'Édom qui s'est converti à la Torah. Donc, et lui, il prophétise contre Édom. Ovadia, il a une... Nous, on a un court texte de la prophétie d'Ovadia, c'est très court, un chapitre. Et c'est un chapitre contre Édom, qui dit, si c'est la fameuse, enfin, si jamais tu t'élèves et que tu mets ta résidence comme un aigle, etc., j'irai te chercher de là-bas, dit Hachem. Parce que ça, c'est le passou qu'Hachem a dit à Yaakov, dans le rêve de Yaakov, quand Yaakov a vu que ça montait, il a vu tous les royaumes qui allaient dominer Israël, qui montait le long de l'échelle, mais il les voyait toujours monter puis ensuite redescendre. Comme on a dit, les royaumes, ça dure un certain temps, les civilisations sont mortelles, voilà, ils sont puissants pendant un certain temps, puis ensuite ils disparaissent. Après, il a vu Esov, Édom qui monte, et il ne les voit pas redescendre. Alors, Yaakov s'est effrayé, ça veut dire quoi? Il va gagner finalement. Alors là-dessus, le Midrash qui dit ça, qui rapporte ça, il rapporte le passouk d'Ovadia, qui lui justement est un prophète qui prophétise contre Édom. Il vient d'Édom et il prophétise contre Édom. Et il dit, Hachem dit, n'aie pas peur, quelle que soit la hauteur à laquelle il s'élève, j'irai le chercher, je le ferai descendre. Donc Hachem assure à Yaakov qu'Esav ne gagnera pas. Et ça veut dire que le Édom se présente, le malach de Sav ici, il se présente comme ayant les moyens de gagner en fait. Et Yaakov, il lui répond avec ce passouk d'Ovadia, il dit, Ovadia lui-même, quelque part, toi-même tu dois reconnaître, tu reconnaîtras, c'est la prophétie, toi-même Édom, tu reconnaîtras que je suis le feu et que par conséquent, tu n'as pas de pouvoir sur moi, ultimement. Mais ça veut dire, Beth Yaakov Esh, et tu vas brûler, ça veut dire que si la maison de... Si on n'avait pas expliqué le passouk, quand on dit Beth Yaakov Esh, on pourrait penser, bon voilà, au contraire, Beth Yaakov va être en feu et il sera détruit. Bon, si vous dites la maison de... Je ne sais pas, moi, la maison de France est en feu. C'est quoi? C'est la Révolution française et on va tuer Louis XVI. Il y a le feu, c'est perdu. Et ici, l'important, ce n'est pas que... Enfin, c'est en feu. On peut imaginer qu'il y ait quelque chose de terrible qui se passe dans le clan d'Israël aussi à ce moment-là. Mais c'est ça qui va détruire justement cette... Ce feu qui a lieu en Israël, dans le clan d'Israël, c'est lui qui va brûler Édom comme de l'étoupe. Édom est comparé à de l'étoupe, il va brûler complètement.
Donc là, il fait référence au temps des siècles.
La fin des temps. Mais la bataille est une bataille de la fin des temps. La bataille est une bataille pour la fin des temps. Parce que la victoire de Yaakov n'est qu'une victoire à la fin des temps. Mais entre-temps, dans l'entre-temps, la hanche va être démise, il va boiter, il va avoir des difficultés. Yaakov. Il n'a pas... Cette victoire-là n'indique pas du tout que la vie va être un long fleuve tranquille pour le clan d'Israël. C'est seulement l'assurance que ça finira bien. Mais ce qui peut se passer entre-temps, on n'en sait rien. Et peut-être même une situation où il va mettre le feu au monde. Quoi. C'est ce qu'il est en train de dire. S'il met son doigt dans la terre et la terre prend feu, ça veut dire, si on imagine ce que ça veut dire, que la terre va prendre feu, c'est, comme on dit, ça sera à feu et à sang. Et donc Israël va aussi être pris dans le feu et à feu et à sang, mais il ne sera pas détruit, parce qu'auparavant, le feu lui-même va détruire Édom. À la limite, on a l'impression que Édom qui va mettre le feu va être détruit par ça. C'est un peu paradoxal, il est capable de mettre le feu, mais il ne peut pas se préserver du feu. Par rapport à ce feu-là, il sera comme de l'étoupe. Bon, ça c'est ce qui nous est dit sur la lutte. La lutte dans la version lutte contre le brigand. N'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a ici? On a Esav qui se donne comme le frère de Yaakov, les bergers, l'autre hébergé. Et puis on a Esav qui se donne comme le maître du monde, comme la violence, comme le Esav qui est conquérant, etc. Et qui pense qu'il dominera Yaakov également. Quand il lui dit, il faut que je lui dise qui je suis. Il faut qu'il sache à qui il a affaire, c'est-à-dire il n'a aucune chance de s'en tirer, tellement je suis puissant. C'est intéressant, c'est une parole simplement. Jacob lui dit, tu n'imagines pas que tu me fasses peur avec ça.
La confrontation elle est obligatoire.
Semble-t-il, oui.
En fait, il était obligé de revenir.
Non, elle aurait peut-être eu lieu. Elle aurait pu avoir eu lieu à un autre moment. Il me semble.
Est-ce que ce serait pas ça en fait le manito dénoue, c'est-à-dire puisque maintenant Jacob il a pris son pli de se présenter devant Esav, on est obligé maintenant, on ne peut plus revenir en arrière.
Alors quoi c'est omnutavotenu?
Ça fait partie de
notre. Oui, non, mais il revient justement en arrière, je ne comprends pas.
Oui, lui, il revient en arrière et nous, on est aussi obligé de se confronter à Esav.
Oui, oui, c'est sûr. La confrontation avec Esav, elle aura lieu, c'est sûr.
Ce qu'on aurait pu dire, c'est que, comme vous connaissez certains marchés, on l'a vu, que Jacob aurait très bien pu ne pas se.
Justement, ce que je voulais dire, c'est. C'est qu'en fait, vous savez bien que, en fait, c'est Jacob qui est allé chercher Esav. Tel que c'est décrit dans la Torah, Esav est sur sa trajectoire, Jacob est sur une autre trajectoire. C'est deux trajectoires qui se rencontrent pas. Mais Jacob, il voit Esav là sur sa trajectoire, Esav il s'occupe plus de Jacob, il est là, il a tous ses soldats, etc. Il conquiert le monde. Qu'est-ce qu'il a à faire de Jacob et qu'est-ce qu'il a à Jacob? Un troupeau. Il n'y a pas de quoi. Il n'est pas capable. Jacob ne représente aucun danger pour lui. Il n'a d'aucune manière une limitation pour lui. Et semble-t-il, il est plus ou moins apaisé. Finalement, il a dû s'apaiser. Et donc, Esav, il ne vient pas à la rencontre d'Esav. Esav ne vient pas à la rencontre de Jacob. C'est Jacob qui va le chercher. En lui envoyant des présents, etc. Littéralement, il va le chercher. Chazal lui font des reproches. Ils disent, mais évidemment qu'on va tirer l'oreille du chien et après tu te plains qu'il aboie. Je veux dire, qui t'a dit d'aller tirer l'oreille du chien? Je veux dire. Eh bien, Jacob, il a décidé de le faire. Il l'a fait. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la confrontation avec l'ange d'Esav, on peut dire. C'est aussi lui qui l'a cherché. En revenant, il l'a aussi cherché. Alors, est-ce que quand on revient, parce qu'on a peut-être oublié quelque chose, est-ce qu'au fond, c'est pas ça, justement, aller chercher Esav? Parce que finalement, eux, quand ils sont revenus à Tyr, les gens leur disent, mais qu'est-ce que... Les gens, ils se sont réjouis, là. Vous nous embêtez, là. On avait gagné un ballot de soie, là, maintenant. Vous venez le récupérer. Vous venez récupérer quelque chose qui est à vous. Alors que, puisque vous étiez partis, ben, c'était à nous, maintenant. Vous êtes partis. Et donc, quelque part, c'est une confrontation avec eux. Alors, il dit, mais d'où je savais qu'il faut faire comme ça. Mais peut-être que quand on est parti, on est parti. Il y a aussi de quel droit vous venez récupérer quelque chose que vous avez abandonné. Vous êtes parti, c'est fini. Maintenant c'est devenu FKR, enfin ça. Maintenant ils viennent, ils reprennent. Les autres leur demandent. La question n'est pas simplement, peut-être, ici elle est présentée d'où ça. On voulait mettre en avant qu'ils faisaient comme ce que Yaakov Avinu a fait. Mais Yaakov Avinu, lui aussi, il est revenu chercher des choses qui avaient été abandonnées, disons. Et si elles sont abandonnées, ben, celui qui viendra en prendra possession. Et si on dit qu'il avait abandonné ces choses-là, en attendant, c'est quasiment Esav, enfin, c'est le. Dans la première version, le berger, il a pas. Le berger a dit à Yaakov, passe d'abord. N'est-ce pas? Et par conséquent, ce que Yaakov avait abandonné, le berger il peut en faire main basse là-dessus. Et donc quand Yaakov revient, il lui prend. Il prend ce qui était à lui, mais quelque part, qu'est-ce que tu viens reprendre? Qu'est-ce que ça représente, cette histoire de venir reprendre des choses que les Juifs ont abandonné et qu'ils ont laissé au Goïm, en fait. On pourrait dire, Yaakov, il a laissé, quand il est parti, il a laissé Esav dans la maison d'Yitzhak. Il a plus... Oui, tu es parti. Maintenant, c'est moi l'héritier. Finalement. C'est vrai que tu as reçu les brachot, mais c'est moi l'héritier. Que tu reviens d'une certaine façon. Il vient lui reprendre quelque chose que. Une position dont Esav a pu penser que finalement, ben voilà, les. Il a reçu la bracha, mais il n'en tirera rien, parce que c'est. Il est parti. Et a priori, ça fait 20 ans qu'il est parti, et il ne revient pas. Donc on pourrait se demander si Esav ne. Il pense, à la limite, même s'il voit Yaakov, il ne va pas le chercher parce que Yaakov est peut-être quantité négligeable pour lui. Comme il lui dit, il ne sait même pas Yaakov. L'ange dit, mais, je ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis le maître du monde, je peux mettre la terre à feu et à sang. Je mets la terre à feu et à sang. Je suis le maître du monde, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et Yaakov lui dit, mais j'ai pas peur. Et donc, je suis tout à fait capable de lutter avec toi. Et c'est ce qui va se passer après, c'est que quand Yaakov se prépare pour lutter vraiment avec Esav, d'accord, on dit, c'est marqué qu'il a très peur, Chazal dit de quoi il a peur, mais il a autant peur de tuer que d'être tué. C'est pas du tout qu'il a peur d'être tué, point barre. C'est-à-dire de penser, ben c'est sûr qu'il est beaucoup plus fort que moi, il va m'écraser. Il a aussi peur de tuer, parce que tuer, ça vous disqualifie, ça vous, c'est autre chose, avoir tué quelqu'un, c'est pas si facile. Et donc il va éviter, à ce titre-là aussi, il veut éviter la guerre. Il veut éviter la bataille. Et du coup, lui, qui est Makpid sur son argent, etc., il inonde Esav de cadeaux. Il est Makpid sur les parkings Tanim, et ensuite il va chercher Esav, et il l'inonde de cadeaux. Qu'est-ce qu'il fait là? On voit très bien, lui il pensait, ben voilà, la fonction des biens, c'est éventuellement de pouvoir acheter les gens.
C'est toujours comme ça.
C'est comme ça que les Bnei Israël ont survécu. On n'a pas arrêté d'acheter les gens, et non seulement on les a achetés, mais ils ont bien compris qu'ils pouvaient nous rançonner à merci, quasiment. C'est-à-dire, on attaque les Somaliens, mais les chrétiens, ils ont fait ça avec nous en permanence, dans toute l'histoire. Des pirates somaliens. C'est rien ce qu'ils font par rapport à ce que les goïms nous ont fait.
Mais
notre histoire.
Si je peux me permettre juste une interprétation personnelle à partir de ce que vous dites, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on revient sur quelque chose qui nous appartient. Et le monde entier est en train de nous dire.
Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous revenez? Vous avez abandonné? À feu, à sang, ils diront.
C'est exactement ce qu'il est en train de dire.
Et. Seulement ça, c'est un raisonnement de la fin des temps. J'ai pas peur, c'est la préfiguration de la lutte ultime. Ça veut pas dire que, avant la fin des temps, on soit sûr de ce qui va se passer. On en est encore à faire attention et à les acheter, très cher.
La deuxième interprétation du Midrash, donc avec le brigand, le chef des brigands, en fait, on n'est plus dans l'histoire de retourner pour la fiole, en fait. C'est une nouvelle lecture complète de toute l'histoire de Vélimataire et Cordobado. Il retourne, en fait, uniquement pour faire passer le propos du chef des brigands, et il retourne. Mais on ne peut plus trop en tirer l'idée que on tire la Gemara, que ça décline, Khalilayam, Obonam, Mitterrand, etc. C'est une autre lecture.
Et en plus, la question est, pourquoi est-ce qu'il est levado ici?
En plus, le Malach, lui, il avait déjà passé de l'autre côté.
Le Malach, il est de l'autre côté avec le troupeau d'Yakov. Non, quand il passe sans arrêt.
Là, c'est comme si l'autre l'obligeait à rester toujours dans cette situation, l'obligeait de passer, puisqu'il lui fournissait non-stop des animaux qui le bloquaient finalement, qui faisaient que l'autre ne pouvait
pas bouger. Tu ne pourras pas bouger ?
Tu ne pouvais pas bouger.
Tu n'en as jamais fini avec mon troupeau. Ça veut dire, l'histoire n'est jamais finie, vous n'aurez jamais fini de régler les problèmes, quoi. Du coup, ça veut dire que ça représenterait presque la victoire comme une espèce de victoire à la Pyrrhus, parce que tu as gagné, on m'a supposé que ça s'appelle tu as gagné, mais l'histoire, elle est infinie. Et finalement, qui est-ce qui décide de mettre un terme? C'est lui, c'est le Malach qui dit. Mais c'est comme ça aussi. C'est le Malach qui dit, laisse-moi partir, on arrête la guerre. Après, il y a les Midrashim qui disent que la raison pour laquelle Yaakov a été blessé, il a été blessé à ce moment-là. Parce que normalement, quand le Malach a dit on arrête de se battre, parce que c'est le matin, Yaakov n'aurait pas dû continuer la lutte. Et il gagne tant que c'est le moment, tant qu'il est obligé de se battre. Il est contraint de se battre, c'est l'autre qui l'attaque. Et avec Ishimo. À partir du moment où le Ish dit « je ne me bats plus, ça va être à gagner, je m'en vais », et Yaakov dit « non, pas du tout, reste, je ne te laisse pas partir », du coup, il est blessé. Yaakov aurait... Tu dois prendre la guerre comme quelque chose qui t'est imposé, et ça ne dure que le temps que ça t'est imposé. Après, il n'y a plus de guerre, alors arrête. Pardon ?
Il arrête, il le retient plutôt, parce qu'il veut être béni.
Enfin, il continue la guerre. Quand il dit laisse-moi partir, il dit non, je vais. Bon, même s'il veut être béni, il continue la guerre jusqu'à ce que l'autre le bénisse.
Oui,
et ça permet à l'autre de le blesser.
Oui, mais s'il ne l'avait pas béni, il n'aurait pas
Et peut-être qu'il aurait dû lui demander la bénédiction. Voilà, laisse-moi partir, oui, alors je te laisse partir, mais bénis-moi, c'est tout. Sans se battre. Il y a des Chazal qui disent qu'il s'est battu et qu'il n'avait pas le droit de se battre à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il est blessé. Voilà, on va s'arrêter là. Vous avez 2 semaines pour réviser. Il n'y a pas de cours, ni jeudi prochain, ni jeudi d'après. Alors, vous pouvez vous réunir pour discuter du Midrash, si vous voulez, mais je ne pourrais pas participer.
Sinon, en passé, il n'y a pas de rapport avec ce que tu as vu la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais bloqué sur le premier Midrash sur les vados, entre ce qu'on a vu cette semaine entre le Midrash.
Le Midrash, ici, il parle complètement de. Il est censé parler de la deuxième partie du verset. Et avec Ishimo. Alors maintenant, on ne voit pas le lien. Bon, je ne l'ai pas encore fait parce que je considère qu'on n'a pas vraiment complètement terminé cette deuxième partie.
Et
l'Ave Malka sur Motsei Shabbat. 21h pour les petits fours et 21h45 pour le Shiva. Bonsoir.
Allô.
Bonsoir, bonsoir.
Allô.
Oui.
Alors, je voulais savoir s'il s'agissait d'une guerre ou d'une bataille. Parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, jamais on s'arrête de se battre contre Essam.
Donc, ça, c'est la bataille ultime. Elle prend fin. Quand la lumière se lève, c'est une guerre qui se fait seulement dans l'obscurité.
Ah d'accord, donc ça c'était la dernière bataille. Okay.
Voilà, c'est pour ça que ça préfigure le déroulement ultime, quoi.
Ouais, d'accord. Donc vous êtes là dimanche prochain ou pas?
Ce dimanche prochain, c'est-à-dire quoi dimanche prochain?
Après samedi, après
le
Shabbat.
Après le samedi, oui. Le dimanche après le samedi, je suis là, bien sûr.
Et le lundi après le dimanche?
Le lundi aussi, et le mardi aussi, je pars mercredi.
Ah d'accord, ok.
Je te vois à Motsei Shabbat. Je te vois, Motsei Shabbat.
J'espère.
C'est un ordre.
Non, mais cette fois-ci, je suis pas mal.
Non, alors, bon, j'aime. Bonsoir. Istakhan, bonsoir. Si vous êtes.
Est-ce qu'on est mignonne ou pas?
Non, sûrement pas. Ah, on était mignonne, non?
Je sais pas. Non. Il me semblait que oui, mais non.
Ah bon? Peut-être. Regardez.
Alors, dans ce cas.